Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Créativité, enthousiasme et bonnes idées, ce n'est pas ça qui manque à la jeunesse africaine. En revanche, c'est souvent du côté des outils et des capitaux que cela pêche. L'Allemagne, elle, a les moyens, mais beaucoup de gens ne savent pas où les investir. Et c'est pour réunir ces deux parties que le ministère allemand de l'économie a organisé récemment la première nuit africaine des start-up. Une sorte de rendez-vous galant entre jeunes entrepreneurs africains et entreprises allemandes. Le coup de foudre a-t-il fonctionné? C'est ce qu'on va voir avec Daniel Pels, correspondant de la Deutsche Welle à Berlin. Ce qui fonctionne à coup sûr, ce sont les investissements chinois au Pakistan. Pékin est en train d'aider massivement son voisin à se refaire une santé économique. L'un des projets phares du moment est la réhabilitation des routes de la soie qui reliaient autrefois l'Asie et l'Europe. Restez à l'écoute de Vue d'Allemagne pour en savoir plus. C'est Constance Duncatze au micro. Guten Tag. Bonjour à tous.
My name is Brenda Katwesije. I am from Uganda and I'm extremely passionate about making eye care more accessible.
3 minutes chrono, c'est le temps dont dispose Brenda Katwesije pour présenter son entreprise Wazi Vision. La jeune Ougandaise fait face à 400 invités, la plupart d'entre eux sont en costume cravate. Il y a là des représentants de grands noms de l'industrie allemande comme Siemens, Merck ou Airbus. Et la ministre allemande de l'économie et de l'énergie, Brigitte Cipris, est là. Elle aussi.
They're cool. I think I really look cool. And the best part is...
Au bout de quelques secondes, Brenda Katwesije semble déjà avoir réussi à capter l'attention de son audience. Elle a créé Wazi Vision l'an dernier. L'entreprise propose une application que les Ougandais peuvent utiliser pour contrôler leurs yeux. Les informations enregistrées sont transmises au bureau de Wazi Vision à Kampala et les clients reçoivent ensuite une paire de lunettes appropriées pour une somme jusqu'à 80% moins élevée que chez un opticien classique, soutient la jeune femme. En novembre dernier, Wazi Vision s'est lancée dans la production. Depuis, l'entreprise dit avoir vendu 500 lunettes. C'est le jour où elle-même a eu besoin d'une nouvelle paire qu'elle a eu l'idée de se lancer, raconte la jeune entrepreneuse.
Avant, je travaillais comme consultante et j'avais une assurance, mais elle ne suffisait pas à couvrir les frais pour une nouvelle paire de lunettes. Cela m'a fait réfléchir. Si moi, je ne peux pas m'offrir des lunettes, qu'en est-il des gens qui n'ont pas le boulot et les moyens que j'ai? Comment font-ils pour se procurer des lunettes? Et c'est comme ça que l'idée m'est venue et que j'ai lancé mon entreprise.
3 minutes de présentation plus tard et Brenda Katwesije est poliment applaudie par son auditoire, mais les questions, il faut bien le dire, ne sont pas nombreuses. Tout comme les 7 autres entrepreneurs invités par Berlin, elle espère pourtant avoir fait mouche. Son entreprise a notamment besoin de conseils techniques et les capitaux sont également les bienvenus. L'ennui, c'est que Brenda Katwesije est restée plutôt vague sur les profits de son entreprise et sur les retours que peuvent espérer d'éventuels partenaires allemands. À quelques mètres d'elle est assis Eric Jung. Il est fondateur et président de GreenTech, une société allemande d'investissement, et il a accepté de coopérer avec Wazi Vision avant même que la start-up ne soit véritablement lancée.
You know, the African market is huge.
Le marché africain est énorme. Même si vos bénéfices ne sont pas énormes, en vendant vos lunettes, vous créez un revenu. Cela rend l'affaire rentable et très attractive, du moins jusqu'à ce que de plus grandes entreprises s'emparent de l'idée. Autrement dit, Wazi Vision est une entreprise qui a un impact, qui génère de la valeur ajoutée et qui peut évoluer très vite.
Lors de cette nuit des start-up, la femme qui est sans doute la plus demandée n'est autre que l'organisatrice de l'événement, la ministre allemande de l'économie, Brigitte Cipris. Elle déambule, serre des mains, félicite et elle place de grands espoirs dans les jeunes entreprises africaines. Elle a créé un fonds spécial pour les soutenir. L'objectif, s'il est louable, est aussi intéressé. D'ici à 2030, environ 440 millions de jeunes Africains seront sur le marché du travail. Soutenir les économies à créer des emplois, c'est aussi s'assurer que ces jeunes ne deviendront pas de futurs réfugiés.
Je pense que les start-up représentent une vraie chance pour le continent. C'est pourquoi nous voulons les soutenir. De nombreux jeunes gens sont au chômage, mais en se mettant à leur compte, ils obtiennent une chance de travailler et de s'engager dans quelque chose. Or, c'est extrêmement important, surtout pour les jeunes, d'avoir ce genre de perspective.
Ces invités ne viennent pas de n'importe où, Ouganda, Ghana, Nigeria et Afrique du Sud. Voilà des pays où il existe déjà une classe moyenne avec un certain pouvoir d'achat. Dans d'autres États comme le Soudan du Sud ou la Centrafrique, il est peu probable en revanche qu'une start-up puisse décoller dans les conditions actuelles. À la fin de la soirée, de nombreuses questions restent sans réponse. Il y a eu des poignées de main et des cartes de visite échangées. Mais personne ne repart avec l'assurance que les entreprises allemandes transformeront leur intérêt du moment en investissement dans les start-up africaines. Et personne ne sait non plus si les projets élaborés le temps de cette soirée resteront au stade d'idées ou pourront se concrétiser. Brenda Katwesigye, par exemple, le sait mieux que quiconque. Avant Oasivision, elle avait déjà tenté de se lancer seule, sans succès. Elle espère que cette seconde tentative sera la bonne et lui permettra aussi de créer des emplois. Pour le moment, elle fait travailler 5 personnes à temps plein, 8 à temps partiel. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grab us in the bucket. Can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest that that's on. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I want to play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. Vous écoutez Vue d'Allemagne et on continue de parler économie avec l'un des plus grands chantiers de l'histoire. La Chine est en train de ressusciter la route de la soie, ces routes commerciales qui reliaient l'Asie à l'Europe pendant l'Antiquité. Pour ce faire, Pékin ne recule devant rien et s'apprête à dépenser quelques 1000 milliards de dollars. Le Pakistan est l'un des premiers destinataires de cet investissement, financé par des entreprises et des banques chinoises. Certains économistes pakistanais s'inquiètent de voir la dette de leur pays exploser, mais pour l'instant, c'est l'optimisme qui prévaut, comme a pu le constater Emmanuel Derville, notre correspondant sur place.
C'est un ruban d'asphalte qui s'étire au milieu des dunes et des collines ensablées, parsemées d'herbes et d'arbustes. La route est en construction. Une fois terminée, elle réduira de 7 à 4 heures le trajet entre la capitale Islamabad et la ville de Takhout à 260 km au nord. Le tronçon sera la première étape de l'autoroute de la Karakoram qui relie le nord du Pakistan à Kashgar dans l'ouest de la Chine. Fayez Ahmed est le directeur du projet à l'autorité pakistanaise des autoroutes et comme chaque jour, il se rend sur le chantier pour superviser les travaux. Tout doit être terminé d'ici le mois de décembre.
C'est 5 km.
Nous sommes sur les 5 premiers kilomètres de la route. Là-bas, vous avez le camp où logent les ouvriers ainsi que plusieurs installations. Il reste encore à terminer la route, à l'aplanir par endroits, à planter la végétation. Sur les 20 premiers kilomètres, nous faisons travailler 600
personnes.
Ce chantier est l'un des 48 projets lancés par la Chine au Pakistan depuis 2014. Pékin est en train de débourser 55 milliards de dollars pour construire et moderniser des autoroutes, des voies de chemin de fer, des centrales thermiques, des fermes éoliennes et solaires et le port de Gwadar à quelques encablures du détroit d'Ormuz sur la mer d'Arabie. Nom officiel de ce programme de grands travaux, CPEC pour China-Pakistan Economic Corridor. La Chine veut désenclaver ses provinces de l'Ouest en les connectant à l'Afrique et au Golfe Persique via le Pakistan, mais elle entend aussi redresser l'économie de son allié afin de l'aider à contrebalancer l'Inde, son grand rival en Asie du Sud. Hassan Iqbal est le ministre pakistanais de la planification. Il supervise le CPEC avec le gouvernement chinois et pour lui, le Pakistan tourne la page des années noires marquées par les attentats des talibans qui ont explosé à partir de 2007.
Des entreprises du monde entier, notamment européennes, s'intéressent au Pakistan. Nous avons reçu plusieurs délégations d'hommes d'affaires occidentaux venus prospecter. Le China-Pakistan Economic Corridor a permis de faire repartir l'activité économique du Pakistan qui compte 200 millions d'habitants avec une classe moyenne de 70 millions de personnes. Nous possédons d'importantes richesses minières. Avec le China-Pakistan Economic Corridor, nous construisons des centrales électriques et des voies de communication communication moderne et le Pakistan devient attractif pour les investisseurs étrangers. Nous sommes le sixième marché du monde en termes de population. Aucune multinationale ne peut nous ignorer.
Pour relancer son économie, le Pakistan devra attirer des investisseurs étrangers pour de bon. Sinon, les retombées de ses grands travaux resteront limitées. Les entreprises chinoises ont investi plus $1 milliard l'an dernier. 20 à 30 000 hommes d'affaires et ingénieurs chinois travaillent ici. Les groupes occidentaux, eux, restent prudents et laissent le champ libre aux Chinois. Du coup, de plus en plus de Pakistanais veulent apprendre le mandarin pour trouver du travail ou étudier en Chine. À Islamabad, le Pak China Institute organise depuis l'an dernier des cours du soir. Une centaine d'élèves ont déjà complété le cursus et une nouvelle promotion de 20 étudiants s'est inscrite pour la session qui a commencé début juillet. Il y a 3 séances par semaine. Pour Fahad, l'un des participants, parler le chinois va vite devenir indispensable.
Les Chinois sont en train d'arriver en force au Pakistan. Ils dirigent des entreprises, pilotent des chantiers. Si nous parvenons à parler leur langue couramment, nous serons capables de communiquer avec eux et de les guider. C'est indispensable si on veut franchir la barrière de la langue qui nous sépare d'eux. Je le vois dans mon travail, je suis ingénieur et tous nos partenaires sont chinois.
Toutes les grandes universités du pays proposent des cours de chinois dispensés par des enseignants de l'Institut Confucius. La montée en puissance de l'influence culturelle de la Chine au Pakistan ne fait que commencer. Emmanuel Derville, à Islamabad pour la Deutsche Welle.
La route de la soie ressuscitée par les Chinois, un reportage d'Emmanuel Derville à retrouver sur notre site internet dw.com/français, rubrique médiathèque ou podcast. Et puis si vous voulez nous écrire, envoyez-nous un mail à français@dw.com. Bonne semaine à toutes et à toutes, à la prochaine et tchuss.